France Culture.
France Culture, Affaires étrangères, Christine Ockrent.
Bonjour à tous. Donald Trump reste fasciné par Vladimir Poutine et cette relation singulière ne cesse de peser sur le sort de l'Ukraine. Volodymyr Zelensky était hier dans le bureau ovale avec l'espoir d'obtenir des missiles de longue portée. Leurs rapports sont meilleurs, mais l'Américain ne lui accordera pas les Tomahawks et le presse à nouveau de négocier avec Moscou. Faut-il voir dans ce dernier changement de pied de la Maison-Blanche l'habileté de Vladimir Poutine à jouer des ambitions et de la vanité de son locataire ? Au terme d'une longue conversation téléphonique à la veille de la rencontre Trump-Zelensky, voilà que sont annoncés un prochain sommet à Budapest chez le bon ami Orban et une reprise des négociations à haut niveau. Auréolé de son triomphe à Jérusalem et à Sharm el-Sheikh, Donald Trump semble convaincu de sa capacité à imposer la paix en Europe. Mais avec quels arguments, quels objectifs vis-à-vis de l'agresseur et de l'agressé après l'échec retentissant de la rencontre d'Anchorage en août dernier? Depuis son retour aux affaires, le président américain n'a toujours pas reconnu la responsabilité du Kremlin dans cette guerre, alternant compliments et coups de menton, regrets et menaces, sans jamais aller jusqu'à des sanctions directes. Quels sont donc à ce stade les rapports de force militaires entre les Ukrainiens, qui multiplient les attaques de drones à l'intérieur de la Russie, et les Russes qui bombardent les infrastructures énergétiques sans réussir la percée? Plus à l'ouest, Moscou multiplie les actions hybrides visant à déstabiliser les alliés de Kiev, c'est-à-dire nos propres pays. Quels sont les moyens de riposte de l'OTAN et de l'Union européenne ? L'argent va manquer pour continuer à financer le soutien européen à l'Ukraine. Parviendra-t-on à un accord pour utiliser les milliards de fonds russes bloqués dans les circuits bancaires occidentaux, comme le souhaitent certains partenaires. C'est ce que nous allons comprendre ce matin grâce à vous, Céline Maranger. Vous êtes chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'École militaire. Vera Grantseva, politologue, enseignante à Sciences Po Paris. Camille Grand, secrétaire générale de l'ASD Europe, qui réunit les industriels de la sécurité, de la défense et de l'aéronautique. Camille, vous êtes aussi chercheur associé au Conseil européen pour les relations internationales et vous enseignez à Sciences Po. Elie Tenenbaum, directeur du Centre des études de sécurité de l'Institut français des relations internationales. Elie, je commence avec vous. Revenons sur cette conférence de presse en direct hier soir depuis la Maison-Blanche, une conférence de presse comme Trump les affectionne, où il déraille volontiers, en fait, pour chanter ses propres louanges, mais on pouvait voir de dos le malheureux Zelensky, la nuque crispée, qui s'est rendu compte qu'encore une fois, Donald Trump avait changé d'attitude, et ce, moins d'un mois après son discours à l'ONU, où il traitait la Russie d'ours de papier.
Bonjour Christine, oui absolument, on est revenu finalement sur l'impulsion ou l'intuition initiale qui était celle de Donald Trump et de son administration, c'est-à-dire de faire fondamentalement un pas de côté par rapport à l'engagement historique des États-Unis aux côtés de l'Ukraine et dans la pression sur la Russie pour évoluer vers une posture de médiateur plutôt sympathique ou empathique vis-à-vis de la Russie et de Vladimir Poutine en personne, et on a l'impression que toutes les démonstrations de mauvaise foi qui ont pu être faites depuis que la traque de négociation russo-américaine qui s'était ouvert, on s'en souvient, en Arabie Saoudite au début de l'année 2025. Voilà, finalement, toutes ces démonstrations de mauvaise foi ont été à nouveau oubliées ou volontairement mises de côté pour postuler l'idée que Vladimir Poutine était intéressé à la paix, était intéressé à négocier une forme de cessation des hostilités. Alors il est moins allé que par le passé dans la critique de Zelensky lui-même et d'une forme de responsabilité ukrainienne, ou au moins d'une responsabilité partagée du conflit, mais à nouveau, on va dire, adoubé l'idée que Vladimir Poutine était un partenaire et que ce conflit pouvait trouver une fin sous la tutelle de la médiation américaine, effectivement, en reprenant à son compte les soi-disant succès, on va dire, d'un certain nombre de règlements de conflit sous son autorité, et en laissant peser l'idée d'une rencontre à Budapest sans même, on a l'impression, se soucier de l'ironie un peu cynique finalement du choix de cette ville où derrière la personnalité de Viktor Orban, Budapest avait été aussi le lieu où avait été signé en 1994 par la Russie et par les États-Unis, contresigné par la Russie et les États-Unis, le fameux mémorandum qui était censé garantir la sécurité et l'intégrité de l'Ukraine. On sait ce qu'il en est advenu par la suite.
Céline Maranger, quand Donald Trump dit Vladimir Poutine veut mettre un terme à cette guerre, ce à quoi Zelensky répond « on est toujours en guerre », sur quoi peut s'appuyer le président américain, les compliments dont apparemment Vladimir Poutine l'a abreuvé au début de ce coup de fil de jeudi, qui a été en fait provoqué par le Kremlin?
Oui, c'est la question que tout le monde se pose, en fait, de savoir si Vladimir Poutine a vraiment l'intention de négocier ou s'il joue une énième... il cherche à gagner du temps, à détourner l'attention de Trump et à continuer pendant ce temps-là à acculer les Ukrainiens à la reddition. Je pense que la réponse, elle est moins simple qu'il y a quelques mois. D'un côté, le fonctionnement de l'économie russe, il est ébranlé. Et donc... Vladimir Poutine peut vouloir chercher un répit. Les attaques de drones dans la profondeur du territoire russe que vous avez mentionné, elles commencent quand même à perturber le fonctionnement des usines d'armement et la vie quotidienne. Les Ukrainiens ciblent des infrastructures militaires, des usines d'armement, mais surtout des raffineries. On a vu le résultat avec des pénuries de carburant dans plusieurs régions. Et puis surtout, l'économie russe, elle montre quand même des signes d'essoufflement. Elle se situe maintenant entre la stagnation et la récession, alors qu'en fait, après l'invasion, du fait de la hausse des prix du pétrole et des investissements dans l'appareil de défense, la croissance, elle avait été vraiment portée, elle était à plus de 4% à un moment. Là, en ce moment, le système bancaire connaît des fragilités. Les investissements directs étrangers, ils ont atteint leur plus bas niveau depuis une quinzaine d'années. Et les spécialistes de l'économie russe pensent en fait qu'il n'y a pas de rebond à attendre, et que par ailleurs, les revenus tirés de la vente des hydrocarbures vont baisser. Or, on sait que c'est une bonne part du budget de l'État, et s'ils vont baisser, c'est en partie grâce aux efforts de Trump, qui a forcé l'Inde à arrêter d'acheter du pétrole russe au rabais.
Oui, enfin, qui essaye,
oui. Et aussi des Européens qui prennent quand même des mesures plus sévères pour lutter contre la flotte fantôme, c'est-à-dire contre les navires qui transportent clandestinement du pétrole russe en dépit des sanctions.
Mais ce qu'on comprend aussi, Céline, qu'on comprend, c'est effectivement que dans cette très longue conversation dont s'est félicité Donald Trump, donc plus de 2 heures au téléphone jeudi entre Donald Trump et Vladimir Poutine, il a été fortement question de business et de deal. Et on sait à quel point le milliardaire américain y est sensible, avec donc un éventuel retour de compagnies américaines en Russie, et l'accès à ces fameuses terres rares, donc ces minerais dont dispose le territoire russe, en tout cas en Sibérie, je crois, et qui est évidemment, surtout par rapport à la Chine, l'obsession de l'administration américaine.
Oui, non, mais je veux dire qu'ils ont des choses à proposer aux Russes. Cela dit, moi, il y a quand même de sérieuses raisons de douter que Vladimir Poutine envisage de conclure un cessez-le-feu. Et je pense qu'il faut garder ces raisons-là à l'esprit. La première, c'est qu'il est clair qu'il n'a pas atteint ses buts stratégiques et qu'il reste, en tout cas, c'est ce qu'il dit, sur des objectifs maximalistes. Il ne fait pas la guerre pour geler la ligne de front, comme le propose Donald Trump. Il n'a pas sacrifié 700 000 hommes tués et blessés, dont au moins 5 400 officiers morts au combat, c'était les chiffres de janvier dernier, pour conquérir quelques territoires dévastés du Donbass. Je veux dire, les ambitions de Vladimir Poutine sont beaucoup plus grandes. La guerre, elle lui sert à atteindre des objectifs plus grands. Il veut d'abord la capitulation pure et simple de l'Ukraine. Il cherche à détruire l'État ukrainien, c'est-à-dire l'Ukraine en tant qu'entité viable et indépendante. Mais en même temps, il veut aussi, à mon avis, à travers cette guerre, obtenir une refonte des arrangements de sécurité en Europe, oui, qui impliquerait un affaiblissement de l'Union européenne, mais aussi peut-être même, dans son esprit, en tout cas, le démantèlement de l'OTAN. Et puis, il y a un deuxième point très important qui laisse penser qu'il n'est pas pressé de négocier, c'est qu'il pense avoir l'ascendant. Et il pense avoir l'ascendant sur le plan psychologique, sur le plan militaire et sur le plan diplomatique. Il est clair que le président russe s'amuse à manipuler le narcissisme de Trump. Pour lui, c'est une victoire en soi. L'armée russe, on sait qu'elle s'améliore. Elle apprend de ses erreurs, elle devient plus performante, notamment dans le domaine des drones. Et sur le plan diplomatique, Moscou a obtenu quand même des victoires symboliques importantes. Hein. Ça a déjà été rappelé, sans rien donner en retour. Donc, oui, je pense que les dirigeants russes considèrent que le temps joue en leur faveur en Ukraine et que, de leur point de vue, ce n'est pas le moment de faiblir ni de ralentir, mais plutôt d'intensifier les attaques et de porter les stockades. Donc, d'un
en
côté,
cas,
vous avez raison.
On verra qu'un migrant, on n'a pas encore la date de cette prochaine rencontre Trump-Poutine. On ne sait pas jusqu'à quel point Zelensky sera associé. Mais ce que l'on sait, c'est que ce sera à Budapest. Et Orban, et c'est évidemment une épine dans le flanc de l'Union européenne, on le sait, est ouvertement pro-Poutine, ouvertement anti-Ukraine. Et il conseille Donald Trump au sujet de Vladimir Poutine. Trump ne rate pas une occasion pour dire à quel point Orban est génial. Il l'a encore dit, je crois, à Sharm el-Sheikh, il y a quelques jours.
Effectivement, le choix de Budapest est doublement ironique. Comme le rappelait Littenenbaum, c'est le choix de la ville qui a vu la signature du mémorandum de Budapest en 1994, mémorandum qui a été allègrement violé par la Russie. Donc il y a un premier clin d'œil historique qui est assez étrange. Et la deuxième chose, c'est quelque chose d'assez malin et pervers à l'égard des Européens. Au moment des négociations d'Anchorage, les Européens avaient dit « on ne parle pas de la sécurité européenne sans les Européens, cette négociation devrait avoir lieu en Europe », avaient proposé à l'époque d'accueillir le prochain round de négociations. Et on voit qu'effectivement, ces négociations vont se tenir éventuellement dans un pays de l'Union européenne et de l'OTAN, mais dans le pays qui est le plus décalé par rapport aux positions des pays de l'Union européenne sur le dossier ukrainien et sur beaucoup d'autres dossiers. Donc le choix de la Hongrie d'Orban est effectivement assez paradoxal et assez problématique. C'est finalement un signal de plus de sa proximité avec Poutine qui est parfaitement assumé par le Premier ministre hongrois.
Évidemment, la Commission européenne n'a pas eu d'autre choix hier que d'applaudir à tout ce qui pourrait mener à la paix. Et il semblerait que Volodymyr Zelensky a téléphoné aux dirigeants européens après sa rencontre avec Donald Trump. Mais on ne sait pas à quels dirigeants européens, Camille.
Alors, on ne sait pas encore à qui il a parlé. Si on reprend les formats qui avaient suivi les échanges en Alaska. On sait qu'il appelle évidemment traditionnellement britannique, français, allemand, mais qu'il essaye également d'associer des pays très sensibles à ses vues et qui ont une influence sur Donald Trump. Le président finlandais, par exemple, était de la visite à la Maison-Blanche après le sommet en Alaska, comme Ursula von der Leyen, comme Giorgia Meloni. Donc il y a toute une chorégraphie pour essayer d'influencer Donald Trump. Ce qui sera intéressant, c'est de voir comment cet éventuel sommet s'organise. Pour une fois, Trump a dit qu'il devrait être préparé, ce qui est déjà un progrès par rapport au sommet d'Anchorage, puisqu'il a dit que Marco Rubio, sous sa double casquette de secrétaire d'État, donc de ministre des Affaires étrangères américain et de conseiller pour la sécurité nationale de Donald Trump, serait chargé d'entretien exploratoire. Est-ce que Trump va consulter d'une manière ou d'une autre ses alliés européens avant cette rencontre ou est-ce qu'il se contentera de les voir après? Il y a beaucoup d'inconnus de logistique, mais qui pèsent beaucoup quand on sait que le président américain est manifestement sensible aux influences du moment, chose que, vous le rappeliez à l'instant, Vladimir Poutine a parfaitement compris et on voit comment il a joué habilement de la flatterie pour dire qu'il aurait dû avoir le prix Nobel de la paix, et évidemment comment il a immédiatement décroché son téléphone pour relancer un processus de négociation auquel personnellement je ne crois pas que la Russie soit très attachée, mais qu'au moment où Donald Trump commençait à hausser la voix et envisageait de nouvelles livraisons d'équipements, voir l'arrivée de ces fameux missiles Tomahawk qui aurait été un vrai changement dans la capacité de l'Ukraine à frapper dans la profondeur le territoire russe.
Et apparemment, Vladimir Poutine a même évoqué auprès de Donald Trump la possibilité de construire un tunnel sous le détroit de Bering, donc un tunnel entre la Russie et l'Alaska. Et Donald Trump, évidemment, a demandé à Zelensky si ça lui ferait plaisir. On imagine la réponse du président ukrainien. Vera Grantseva, ce qui apparaît dans la situation intérieure en Russie, c'est un très net durcissement du régime vis-à-vis des opposants traditionnels, y compris, si j'ai bien compris, une chanteuse qui, à Saint-Pétersbourg, reprenait dans la rue des ballades populaires, mais aussi au sein même des partisans du régime.
Oui, effectivement, c'est une nouvelle tendance qui, d'un côté, était surprenante pour les supporters de ce régime, par exemple pour les 1000 blogueurs ou les experts, les politologues proches au Kremlin. Et en même temps, c'était pas si surprenant que ça, compte tenu l'histoire de la Russie, notamment l'histoire de l'Union soviétique et des répressions sous Staline, qui, comme on le sait, se sont retournées finalement contre les auteurs de ces répressions dans les années 30. Donc, effectivement, il y a d'un côté un durcissement des répressions envers les citoyens ordinaires. Ça ne se traduit pas dans les chiffres, ça veut dire qu'il n'y a pas un grand nombre de gens arrêtés. Les répressions restent ponctuelles, ça veut dire que de temps en temps, le régime arrête une personne pour faire peur aux autres et ça fonctionne, c'est assez efficace, les gens ont peur, ils ne parlent pas de la guerre, ils évitent tous les débats politiques même sur le régime. En même temps, il y a d'autres aussi moyens que le régime utilise pour fermer davantage le pays. Par exemple, dès septembre, il y avait de nouvelles lois qui sont entrées en vigueur sur, par exemple, la recherche des matériaux soi-disant extrémistes sur Internet. Extrémistes, dans le vocabulaire actuel du régime de Poutine, c'est tout ce qui est démocratique, en fait, pour le droit de l'homme, etc. Après, il y a de plus en plus des restrictions par rapport aux messengers et différents moyens de communication avec le monde extérieur. Par exemple, dès septembre, c'est plus possible d'appeler via le Telegram ou le WhatsApp en Russie. Et même les Russes entre eux, dans les régions, ils ne peuvent plus s'appeler. Donc comme ça aussi, le régime peut contrôler davantage les appels qui se passent maintenant un peu plus par téléphone, même si ça reste assez cher. Donc voilà, il y a aussi les non seulement les répressions qui visent à enfermer les gens dans les prisons, ceux qui critiquent le régime, mais aussi il y a une façon comment contrôler davantage la société pour qu'elle reste assez soumise et pour qu'elle ne se révolte pas et ne conteste pas tout ce que fait le régime au plan international, mais aussi au plan intérieur. Mais effectivement, comme vous avez dit, cette tendance nouvelle, elle est quand même assez intéressante de voir que même ceux qui étaient loyaux au régime depuis des années, des décennies, ceux qui ont soutenu la guerre contre l'Ukraine, aujourd'hui, ils sont désignés, par exemple, les agents de l'étranger. Et pour moi, ça montre aussi que finalement, les répressions, des outils aussi comme un agent de l'étranger, ils deviennent non seulement des outils contre les opposants, mais aussi des outils pour les règlements de compte dans le régime lui-même, parmi les gens qui sont autour de Kremlin et qui cherchent à avoir plus d'influence et accès finalement plus aux ressources financières et économiques autour du régime.
Elie Tenenbaum, ce qui continue de sidérer, c'est évidemment à la fois le courage des Ukrainiens, leur capacité de résistance, plus de 3 ans de guerre, et le fait que les Russes, la deuxième armée du monde, c'est ce qu'on disait en tout cas avant cette guerre, eh bien, ils n'arrivent pas à arracher la victoire. Où en sont les rapports de force militaires ?
Oui, absolument. Alors, on a effectivement un front qui est pour l'essentiel, je ne veux pas dire gelé, parce qu'il reste dynamique à l'échelle tactique, mais il n'évolue pas de façon spectaculaire, même s'il y a un grignotage russe clair depuis plus d'un an. Maintenant, le long de ce front qui fait plus d'un millier de kilomètres, où la Russie est dans une situation de supériorité numérique et matérielle claire, avec 700 000 soldats russes face à peut-être moitié moins aux 300-350 000 soldats ukrainiens qui tiennent ce front. Et en même temps, comme vous le disiez, une incapacité russe à exploiter toute forme de brèche ou d'infiltration qu'ils conduisent à une échelle limitée sur le terrain. Donc c'est par un grignotage. Quelqu'un avait fait le calcul que si un escargot était parti du Donbass en direction de l'Ouest au début de la guerre, le 24 février 2022, il serait en Pologne aujourd'hui. Et les Russes, évidemment, sont bien loin d'avoir traversé l'Ukraine. Sur l'aspect tactique, on va dire, de ce à quoi ressemble la zone de front, on a ce qu'on appelle une zone de mort qui s'est étendue considérablement, c'est-à-dire une sorte de no man's land dans lequel la combinaison des drones qui en permanence sillonnent le ciel, repèrent le moindre mouvement, et des drones de frappe ou de l'artillerie auxquels sont transmis immédiatement les coordonnées, fait que il est extrêmement difficile aujourd'hui d'avoir un taux de survie dans cet espace. C'est un espace qui s'étend du fait des portées qui s'accroissent et encore une fois des systèmes de reconnaissance qui saturent l'espace. Donc là où il était de quelques kilomètres il y a un an, on parle aujourd'hui de 10, 20 voire 30 kilomètres de zones extrêmement létales, et avec une capacité russe malgré tout à développer des tactiques d'infiltration, y compris de nouvelles unités de drones qu'on appelle Rubicon, qui s'infiltrent dans la profondeur et qui font beaucoup de dégâts sur les arrières ukrainiens, et qui explique aussi ce recul progressif, notamment sur les zones où la Russie fait fort. On pense à Kupiansk au nord du Donbass, à la zone de Liman, et puis surtout à la région autour de Pokrovsk et Siversk sur la partie du Donbass central et sud, avec une inquiétude malgré tout d'une armée ukrainienne qui manque d'hommes, qui cherche autant que possible à remplacer le champ de bataille, à remplacer les êtres humains sur le champ de bataille par des machines. J'étais en Ukraine il y a pas très longtemps. On parle beaucoup de ces robots terrestres qui viennent ravitailler les soldats au front parce que finalement, quand c'était des véhicules avec des êtres humains, ils se faisaient systématiquement frapper et donc ils préfèrent envoyer désormais des robots plutôt que de risquer la vie de leurs soldats. Et avec une tension sur les ressources humaines hein, qui reste forte pour l'Ukraine.
Camille Grand, ces drones, on les a vus dans le ciel de l'Union européenne. On les a vus en Pologne, on les a vus en Roumanie, on les a vus en Allemagne, on les a vus au Danemark. Et on sait aussi que Moscou accentue ses actions dites hybrides pour déstabiliser nos sociétés à coup de larges pelletées de désinformation en particulier. Où en sont les capacités, si elles existent, les capacités de réplique tant du côté de l'Union européenne que de l'OTAN?
Alors, sur ces incursions dans l'espace aérien européen, je crois qu'il est important d'abord de se rappeler qu'on a trois types d'événements qui se sont passés depuis le début, depuis la rentrée et qui ont suscité l'attention. Il y a eu une incursion de drones militaires russes dans l'espace aérien polonais au nombre de 19, ce qui était extrêmement problématique et ce qui signalait une volonté très claire de tester les défenses aériennes de la Pologne et de l'OTAN. Un certain nombre ont été abattus à l'occasion de cette entrée dans l'espace aérien, mais ça a évidemment mobilisé et l'OTAN et l'Union européenne pour savoir comment contrer une arrivée de ce type d'une escadrille de drones qui volerait de drones militaires. On a eu en Estonie l'entrée de 3 chasseurs russes avec des pilotes qui sont restés plusieurs minutes dans l'espace aérien estonien, ce qui a suscité une interception dans les règles par un chasseur de l'OTAN au bout de quelques minutes. Et enfin, et c'est une chose assez différente, on a de manière persistante des drones sans doute beaucoup plus légers qui se promènent à proximité d'aéroports, de bases aériennes, d'infrastructures européennes, ce qui a conduit à la fermeture d'un aéroport au Danemark, de l'aéroport de Munich, donc des choses qui perturbent la vie quotidienne des Européens, sans que ce soit les drones militaires qu'on voit bombarder l'Ukraine du tout. Donc face à tout ça, on a besoin de plusieurs choses en réalité, c'est-à-dire de bien meilleurs moyens de détection et éventuellement de moyens d'interception. Et c'est là que d'un côté, l'OTAN a durci ses règles d'engagement. Quand un aéronef inconnu est dans l'espace aérien de l'OTAN, l'OTAN réagit immédiatement. C'est le cas également dans l'espace aérien français, où il y a une posture permanente aérienne qui est assurée par l'armée de l'air. Et donc, on va intercepter l'objet pour voir ce que c'est, comprendre si c'est un avion civil qui s'est perdu, si c'est un objet agressif qui, dans ce cas-là, peut, le cas échéant, être intercepté ou voire même abattu si on a la certitude qu'il s'agit de ce qui s'est passé par exemple en Pologne. Donc on a toute une série à la fois de questions de procédure, et là l'OTAN a durci ses procédures d'interception, et on a également toute une série de questions techniques, c'est-à-dire comment est-ce qu'on voit repère des drones qui sont des objets en général un peu plus petits, un peu moins visibles, qui volent plus bas. Ça, c'est l'adaptation de nos radars, l'utilisation de technologies d'ailleurs développées en Ukraine de moyens acoustiques. Et ensuite, comment est-ce qu'on les intercepte à un coût raisonnable, c'est-à-dire avec, ça peut être avec des missiles, mais ça peut être aussi avec de la guerre électronique en brouillant les signaux, ou avec tout simplement des mitrailleuses. Donc il y a toute une gamme, pardon d'avoir été un peu long, mais d'outils qui sont à disposition des Européens pour mieux se prémunir de cette menace. Menace qui, dans le cas des incursions en Allemagne ou en Belgique ou au Danemark, relève beaucoup plus de ce que vous évoquiez, c'est-à-dire la guerre hybride, puisqu'il s'agit un peu de faire peur aux Européens, notamment en créant une sorte de confusion entre le bombardement des villes ukrainiennes et ces vols qui sont problématiques, mais pas en soi particulièrement dangereux, d'aéronefs pas bien identifiés qui conduisent à faire attention à la circulation aérienne dans telle ou telle zone.
Et la Commission européenne, en tout cas par la voix de la, toujours ce titre impossible, de haute représentante pour la politique extérieure, Madame Kallas parlait hier encore de la nécessité de mettre au point une feuille de route pour la défense anti-drone. Céline Maranger, on voit en effet que le Kremlin cherche de façon de plus en plus systématique à déstabiliser nos sociétés et nos opinions publiques.
Tout à fait. Je pense qu'en fait, les services russes cherchent à déstabiliser les alliés de l'Ukraine pour en fait les dissuader de poursuivre leur soutien financier et militaire à l'Ukraine. Et il y a vraiment, on voit une espèce de...
Mais ça, c'est pas nouveau, hein.
Ça n'est pas nouveau du tout. Je pense qu'il y a vraiment un effort. Mais ce qui est nouveau, à mon avis, c'est qu'il y a quand même un effort de coercition qui est croissant contre les Européens. C'est-à-dire, on assiste quand même à une forme d'escalade contrôlée et mesurée dans tous les domaines à la fois. C'est-à-dire que ils font du signalement stratégique, ça vient d'être dit. Ils font de l'intimidation nucléaire. Ils font des attaques hybrides et multiplient aussi les opérations de subversion et les opérations de désinformation. Et tout ça, je pense, est conçu pour exercer cette pression sur les Européens. Maintenant, ils associent aussi des provocations militaires directes. Et en fait, ils cherchent, par la multiplication de toutes ces manœuvres, à produire des effets politiques, en fait. Ils exploitent ces manœuvres dans le champ informationnel pour inquiéter la population, pour abîmer la cohésion nationale, hein, quand on pense que les têtes de porc devant les mosquées, c'était quelque chose qui a été orchestré par les services de renseignement russes qui se servent de ce qu'on appelle maintenant des agents jetables. Et puis cherche aussi à attiser la défiance envers les autorités. Il y a eu une attaque, par exemple, informationnelle contre le chef d'état-major de l'armée de terre récemment. Et je pense qu'on aurait vraiment tort de les sous-estimer dans ce domaine parce que les services secrets russes sont les héritiers du KGB et du NKVD et qu'ils n'ont jamais en fait abandonné leur méthode. Il n'y a jamais vraiment eu de lustration dans ces services dans les années 90. Et donc ils ont un siècle d'entraînement dans la subversion et la manipulation. Et en plus, désormais, ils utilisent en fait des méthodes anciennes qu'ils améliorent avec les moyens modernes qu'offre la révolution numérique et surtout l'intelligence artificielle. Donc c'est vraiment, à mon avis, un défi pour la pérennité de la démocratie, quelque part.
Pour l'instant, on se demande toujours, Céline, ce que font les démocraties. Et là, évidemment, on peut imaginer qu'il y a aussi des actions à l'intérieur de l'espace russe pour déstabiliser le système Poutine. Mais ça, il faut reconnaître qu'on sait très peu de choses.
Mais c'est aussi ce que disait Vera Grantseva. En fait, il y a un durcissement du régime qui s'accompagne d'une fermeture de l'espace informationnel russe par des moyens directs et indirects, c'est-à-dire par des moyens techniques et par des moyens répressifs.
Donc ce qui semblerait si dire qu'il y a une offensive occidentale, encore une fois, en riposte aux manœuvres russes, et ça aussi, ce n'est pas nouveau. Enfin, on sait bien le rôle qu'ont pu jouer les services américains ou britanniques ou français, entre autres, dans l'espace soviétique d'abord et russe ensuite.
Oui, mais en même temps, vous voyez, Trump a tout ce qui était Radio Free Europe ou toutes les chaînes de, enfin, tous les moyens américains qui permettaient de continuer à diffuser une information un peu différente ont été démantelés, après l'arrivée de Trump au pouvoir. Bon, moi, j'ai l'impression quand même que les Européens sont plutôt sur une posture défensive dans ce domaine. Par exemple, la France, elle s'est dotée d'une structure très efficace pour détecter, pour documenter et surtout pour dénoncer les ingérences étrangères. Notamment oui, Viginum. Au moment des élections, c'est Viginum. Il y a, je crois, un effort au sein du ministère des Affaires étrangères et du ministère des Armées pour essayer d'être mieux armé pour faire face à la guerre informationnelle. Et d'une certaine manière, quand même, en France, je trouve que ça résiste bien. Enfin, il faut pas baisser la garde pour autant, mais il y a de récentes études d'opinion, notamment une de l'IFOP, et j'en ai reçu une autre récemment de Dinata, sur la perception de la guerre en Ukraine, qui montre que la société française est consciente de la menace et qu'elle souhaite majoritairement la poursuite du soutien à l'Ukraine.
Et que alors justement, la poursuite du soutien à l'Ukraine, Elie Tenenbaum, encore faut-il en avoir les moyens financiers. Et on voit bien les projections de dépenses pour permettre aux Ukrainiens de continuer à acheter de l'armement américain. On voit que la France en particulier est en mauvaise posture.
Oui, la France est en mauvaise posture sur l'aide bilatérale et depuis longtemps, et en dehors même de l'initiative sur l'achat d'armes américaines, puisque la France ne s'est jamais positionnée en l'occurrence sur ce type de mécanisme. Mais le fait majeur, c'est évidemment que depuis le mois de janvier, ou en fait mars plus exactement, l'aide militaire américaine s'est éteinte. En tout cas, dans la mesure où elle était financée par le dernier paquet d'aide qui avait été voté sous l'administration Biden, avec bien des mois de retard, et qu'il n'y a aucune perspective, et je pense que la conférence de presse d'hier le démontre encore, sous quelque forme que ce soit, que le Congrès approprie, comme on dit, des budgets à l'Ukraine. Donc ce qui se passe, c'est que, en revanche, les armements américains continuent à être utilisés en Ukraine et à être désormais achetés par les Européens pour être transférés aux Ukrainiens. C'est ce qu'on appelle l'initiative Pearl, donc de Priority Ukraine Requirement List. Donc c'est une liste de matériel prioritaire dont l'Ukraine a besoin et qui est aujourd'hui finalement financée par un groupe de pays européens qui signe des chèques de 500 millions de dollars toutes les semaines pour que l'armement américain continue d'arriver en Ukraine. Le problème, c'est que les Américains eux-mêmes augmentent de plus en plus le prix de chacun des matériels, ce qui fait que avec 500 millions, vous avez aujourd'hui beaucoup moins en octobre que ce que vous aviez en juin dernier. Donc il y a une forme d'effet d'aubaine qui est géré par le Pentagone, et effectivement, à la fin, aujourd'hui, il y a un assèchement de ses capacités. L'industrie de défense européenne a monté en puissance sur un certain nombre de segments, je pense aux munitions et je pense à d'autres aspects, mais Camille pourra en dire davantage que moi, mais aujourd'hui ne suffit pas clairement à répondre à la demande ukrainienne, pas plus d'ailleurs que l'industrie de défense américaine dans ses flux. Et l'une des raisons qui a été mise en avant, à tort ou à raison, par Donald Trump sur le refus de livraison des Patriotes, c'est pas qu'une question d'argent. C'est une question qu'ils estiment devoir garder ces moyens pour les États-Unis, et que finalement, on le voit sur d'autres segments, les missiles anti-aériens comme Patriot par exemple, qui aujourd'hui, même si les Européens cherchent à les acheter, Finalement, ils ne sont pas disponibles à la vente. Pour ce qui est de la France, la situation budgétaire dans laquelle on se retrouve aujourd'hui, et je pense que les auditeurs en sont conscients, voilà, positionne la France effectivement très très en bas du classement sur l'aide bilatérale, même si ses contributions à l'Union européenne permettent, voilà, de masquer cet effondrement.
Ce problème du financement à moyen terme de l'aide financière des Européens aux Ukrainiens pour que les Ukrainiens puissent acheter de l'armement explique la montée en puissance d'un projet qui consisterait à dégeler les quelques 140 milliards d'euros de fonds russes, des fonds essentiellement de la Banque centrale russe, qui sont gelés dans les mécanismes de compensation financière en Europe. Et l'un des architectes de ce projet, Hugo Dixon, qui est un éditorialiste britannique pour l'agence Reuters, est passé dans notre studio il y a quelques jours et je lui ai demandé en quoi consiste très précisément ce projet qui soulève évidemment beaucoup de questions.
C'est un prêt de réparation. Ça veut dire que les fonds russes ne seront pas confisqués, mais il y aura un prêt à l'Ukraine et l'Ukraine ne doit pas repayer l'argent si la Russie ne paye pas les réparations de guerre à l'Ukraine. Ce n'est pas confiscation, c'est un prêt. Et c'est un prêt que sera repayé si les fonds gelés sont libérés. Et l'Europe a dit beaucoup de fois que les fonds gelés ne seront pas libérés si la Russie ne paye pas les réparations de guerre. Et c'est absolument clair dans la loi internationale, parce que son invasion à l'Ukraine est illégale et si on détruit les choses, on doit payer. Le BCE, Christine Lagarde, était contre confiscation et n'a pas dit qu'elle est contre le prêt de réparation parce que c'est un mécanisme absolument différent.
Il n'en reste pas moins, et c'est la raison de l'inquiétude au niveau de la Banque Centrale Européenne, que cela met en jeu la crédibilité du système euro. Parce que si, évidemment, si tous les étrangers qui mettent des avoirs dans notre système monétaire se disent, ben, un jour, on va nous les prendre, voilà, ça complique les choses. J'ai demandé à Hugo Dixon qui, à ce stade, est pour avancer ce projet.
Nous avons premièrement la Commission européenne. Deuxièmement, c'est très clair que Friedrich Merz, le chancelier allemand, le pousse avec beaucoup de vigueur. Macron est pour l'idée, mais pas avec beaucoup d'enthousiasme, mais il a donné une interview à Frankfurter Allgemeine Zeitung en disant que c'est un bon plan. Mais après, il a dit certaines conditions. Et aussi, ce n'est pas simplement pour l'Union européenne. C'est aussi le G7 qui peut être dans ce plan, parce qu'il y a peut-être 75 milliards de dollars qui n'est pas dans l'UE, des avoirs russes gelés. Et Grande-Bretagne a déjà dit, nous sommes pour être dans ce projet. Et maintenant, il y a les discussions pour voir si les autres pays, par exemple le Japon, les États-Unis et la Suisse, etc., etc. Parce que si on peut avoir encore 75 milliards de dollars ajoutés avec ce qui vient de l'Union européenne, ça va être encore plus fort.
En tout cas, la Commission européenne, hier, a précisé que si ce système est mis en place, il faut que l'argent dégelé, si j'ose dire, soit utilisé pour acheter des armes européennes en priorité. Vera Grantseva, est-ce que cette question des avoirs russes gelés a fait irruption non pas auprès du grand public russe, bien sûr, mais au niveau des centres de recherche universitaires russes, par exemple?
Oui, ce sujet a été effectivement beaucoup discuté en Russie sous l'angle, bien évidemment, des accusations envers l'Europe de saisir d'une façon illégale ces avoirs qui ont été placés en Europe. C'est assez évident que pour le Kremlin, c'était quand même douloureux de perdre de l'argent qu'ils ont pu stocker en Europe. En même temps, c'était assez, on s'attendait à cette réaction. Bien évidemment, ils ne pouvaient pas eux-mêmes tout de suite accepter l'idée de, en fait, utiliser cet argent pour les réparations de guerre à l'Ukraine. Aujourd'hui, le Kremlin, le régime de Poutine est très, très loin de cette idée, donc c'est assez évident qu'il réagisse d'une façon très très agressive, très très accusative envers l'Union européenne. Il essaie bien évidemment d'utiliser ce sujet pour montrer que le système d'euros, effectivement, que l'Union européenne en soi comme institution financière n'est pas crédible, qu'il finalement ne peut pas garantir la protection des avoirs qui sont placés dans cette institution. Mais à mon avis, c'est pas quand même quelque chose qui doit inquiéter l'Union européenne, parce que bien évidemment que le Kremlin ne veut pas payer les réparations de guerre à l'Ukraine pour l'instant. C'est le fait. Plutôt, l'inquiétude de l'Europe, elle est justifiée, c'est à la réaction des autres partenaires européens qui aussi continuent à placer ces avoirs en Europe. Mais ici, en fait, on peut aussi se demander, est-ce qu'il y a quand même cette perception dans le monde que les actions de l'Union européenne sont injustes envers la Russie? On a vu comment les différents pays dans le monde ont voté en mars 2022 sur la question de l'invasion russe en Ukraine. Donc 144 pays sont opposés à cette invasion et l'ont condamnée. Donc à mon avis, en soi, compte tenu effectivement du caractère complètement illégal et légitime de cette guerre de la Russie contre l'Ukraine, la communauté internationale, y inclut les pays du sud global, ils sont conscients que les conséquences que la Russie subit avec ses avoirs en Europe, dans quelque sens, ils sont justes et ils sont bien parce que effectivement la guerre, la Russie fait la guerre contre notre pays en le bombardant, en voyant les tanks et ses soldats dans ce pays. Donc, je crois que même s'il y a effectivement des inquiétudes par rapport à la procédure, comment utiliser ces avoirs, du point de vue de la légitimité des actions de l'Europe dans le monde, ici, on peut quand même se dire que ça peut être vu comme juste et comme quelque chose du bien par rapport à cette guerre où l'Ukraine finalement est victime du régime de Poutine.
Camille Grand, évidemment, on comprend qu'au niveau des professionnels du système bancaire, à commencer évidemment par les Belges, puisque le système Euroclear est domicilié, je crois, près de Bruxelles. Il y a un certain scepticisme sur la possibilité de faire avancer, sur le plan juridique en fait, de faire avancer ce projet.
Alors, il y a effectivement une double inquiétude. Une inquiétude du secteur financier qui ne veut pas perdre son rôle de lieu des échanges financiers internationaux. Donc pour Euroclear, pour la Belgique en particulier, il y a une deuxième inquiétude qui apparaît, qui est une inquiétude juridique, qui est est-ce que dans 5 ans, 10 ans, il y aura une cour arbitrale internationale quelque part qui dira que cette saisie était illégale et tout d'un coup, la Belgique serait juridiquement tenue de rembourser 140 milliards d'euros à la Fédération de Russie. C'est là que l'initiative proposée est assez habile, parce que en soulignant qu'il ne s'agit pas d'une confiscation, mais d'une sorte d'avance sur réparation, on gère une bonne partie de ce risque et on dit au fond, si la Russie se comporte bien, si la guerre s'arrête, les choses font partie d'une négociation plus vaste et ces avoirs ne sont pas en soi perdus, ils pourront soit être une sorte d'avance sur la réparation attendue là aussi dans un règlement de paix, soit une forme de d'outil qui serait mis dans la négociation plus générale. En réalité, on est dans une situation où, du fait du retrait américain, les Européens doivent aider l'Ukraine encore davantage, alors qu'ils étaient déjà les premiers en volume d'assistance financière et militaire désormais à l'Ukraine. Et compte tenu des contraintes budgétaires des uns et des autres, cette forme de créativité financière pour utiliser ses avoirs et pas seulement ce qu'on fait déjà, les revenus de ces avoirs, et permettrait sans doute de donner pas mal de marge de manœuvre pour aider à la fois à tenir un budget ukrainien qui fonctionne et à acheter les équipements européens ou américains qui sont nécessaires à la défense de l'Ukraine, notamment dans le domaine, alors que la Russie mène une campagne aérienne massive ciblant les infrastructures énergétiques ukrainiennes.
Est-ce qu'on sait, Camille, la réaction à Washington à ce projet, ou est-ce que l'administration, et on en a pris l'habitude, se dit ça c'est l'affaire des Européens, c'est pas notre problème?
L'administration américaine y était traditionnellement favorable, sans doute aussi avec un tout petit peu de cynisme en se disant au fond c'est un problème des Européens. Et nous, on va pouvoir même en tirer un petit profit indirect. Ce qui serait intéressant, et votre interlocuteur le rappelait, ce serait que les États-Unis, qui sont peu concernés, mais qui ont quand même quelques dizaines de milliards de dollars d'avoirs russes dans leurs institutions financières, s'associent à ce projet. Parce que dans ce cas-là, le risque politique, on dirait, serait plus partagé avec les États-Unis et avec quelques autres places financières, notamment le Royaume-Uni et la Suisse, même si c'est l'Union européenne qui porterait l'essentiel de cette décision. Donc là, il y aurait un signal politique sans doute à demander aux Américains et à d'autres partenaires de l'Union européenne pour s'associer à cette mécanique d'avance sur réparation assez maligne. Et c'est là qu'on touche au fond à un problème de Donald Trump, c'est que Trump, on se souvient que pendant l'été dernier, il avait la réunion d'Anchorage c'était subitement monté parce qu'il menaçait Poutine de sanctions financières. Là, le coup de téléphone avec Poutine a lieu dès qu'il évoque de nouvelles livraisons d'armes. Et là, on voit bien que Poutine se joue de la carte de la négociation, de la possibilité d'une négociation, dès que les États-Unis durcissent un peu le ton. Et les sanctions financières américaines qui devaient, par des sanctions indirectes sur la Chine et l'Inde, contraindre la Russie à arrêter la guerre, n'ont jamais vu le jour et on les a oubliées avec le sommet en Alaska. Je pense que c'est ce que est en train de faire Poutine, en tout cas vis-à-vis des Américains. Donc je suis assez sceptique sur l'idée que les Américains s'associent à des sanctions financières.
Et les Américains qui continuent, Élie, on arrive à la conclusion très très provisoire de cette discussion, les Américains qui continuent de faire pression sur les Européens en nous disant c'est à vous d'appliquer des sanctions contre la Chine, contre l'Inde, qui continuent d'acheter du pétrole russe.
Oui, absolument, avec un système de circulation d'ailleurs de ces actifs, de aussi bien financiers que des produits hydrocarbures, qui ont de quoi faire tourner la tête n'importe quelle analyse, puisqu'on a on a des flux dans tous les sens, et les pays qui sanctionnent sont parfois aussi des pays qui importent indirectement des hydrocarbures russes.
Et enfin, on continue en Europe, hein, et notamment évidemment la Hongrie. Oui.
Oui, même des pays qui ont effectivement mis des sanctions, contrairement à la Hongrie, et qui importent indirectement par l'Inde ou par d'autres biais des hydrocarbures raffinés russes et qui exportent. On a trouvé encore des puces électroniques fabriquées en Allemagne dans du matériel utilisé par la Russie. Alors, évidemment, pas de façon directe, mais par rebond et par un refus d'appliquer, on va dire, des sanctions secondaires ou de mise en œuvre. Donc on voit bien aujourd'hui que c'est toute l'économie globalisée internationale qui se joue dans cette tentative aujourd'hui bien ratée de la part des Occidentaux d'isolement de la Russie, 19 paquets de sanctions et finalement une économie russe qui, même si elle marque le pas aujourd'hui, continue sans trop d'encombre de pouvoir et exporter sa production hydrocarbures et importer ce dont elle a besoin pour faire tourner une économie de guerre au maximum. Et donc aujourd'hui, on ne peut pas totalement donner tort aux Américains de ce point de vue-là, de renvoyer les Européens face à une forme de responsabilité qui est la leur, de mettre en œuvre des politiques nécessaires. Alors certes, Donald Trump aujourd'hui ne facilite pas les choses en faisant lui-même miroiter des investissements somptuaires américains en Russie. Maintenant, je pense que derrière ces grandes phrases, personne ne s'y méprend. C'est la responsabilité principale des Européens que d'être capable de soutenir l'Ukraine avec les moyens qui sont les leurs et d'offrir finalement une perspective crédible à ces fameuses garanties de sécurité dont on a beaucoup parlé au printemps et dont on parle beaucoup moins depuis cet automne, alors qu'elle reste finalement le principal enjeu de cette guerre, à être capable de préserver une Ukraine indépendante et sûre dans les territoires qu'elle est aujourd'hui capable de contrôler et de définir dans son destin européen.
Même si, Elie, une interview hier ou avant-hier du nouveau chef d'état-major de l'armée de terre français mentionne la possibilité de militaires français sur le terrain.
Oui, c'est une hypothèse qui a été évoquée et même validée dans le cadre de la coalition des volontaires, mais soumise à la signature d'un cessez-le-feu. Aujourd'hui, on voit bien que c'est un serpent qui se mord la queue. Vladimir Poutine, ne voulant absolument pas avoir une quelconque perspective de troupes européennes en Ukraine, d'une certaine manière, c'est l'une des raisons pour laquelle il a commencé, ou en tout cas il a prétexté le lancement de cette invasion à large échelle, c'était pour préempter le risque de son point de vue de voir l'Ukraine soit rentrer dans l'OTAN, soit accueillir des moyens militaires occidentaux. Aujourd'hui, ces moyens militaires européens seraient la manière de caractériser cet arrimage de l'Ukraine à l'Europe, arrimage qu'elle a choisi librement.
Et l'arrimage, pardon, Elie, je vous interromps, ouais. parce qu'on est vraiment à la fin de notre discussion, mais ça me permet une transition pour recommander le papier sur le site de l'IFRI que vous avez rédigé avec Amélie Zima sur le retour à l'Est, la France.